Séraphita. Chapitre 1. Séraphitus. Arrête-moi, Séraphitus, dit une pâle jeune fille, et laisse-moi respirer. Je n'ai voulu regarder que toi, en côtoyant les murailles de ce gouffre. Autrement, que serais-je devenu? Mais aussi ne suis-je qu'une bien faible créature. Te fatiguai-je? Non, dit l'être sur le bras de qui elle s'appuyait. Allons toujours. Mina, la place où nous sommes n'est pas assez solide pour nous y arrêter. Tous deux, ils firent siffler sur la neige de longues planches attachées à leurs pieds et parvinrent sur la première plainte que le hasard avait nettement dessinée sur le flanc de cet abîme. Ici, Mina, tu es en sûreté. Tu pourras y trembler à ton aise. Nous sommes déjà montés au tiers du bonnet de glace, dit-elle en regardant le pic, auquel elle donna le nom populaire, sous lequel on le connaît en Norvège. Mais trop essoufflée pour parler davantage, elle sourit à Séraphitus, qui, sans répondre et la main posée sur son cœur, la tenait en écoutant de sonores palpitations aussi précipitées que celles d'un jeune oiseau surpris. « Il bat souvent aussi vite sans que j'aie couru, » dit-elle. Séraphitus inclina la tête sans dédain ni froideur. Malgré la grâce qui rendit ce mouvement presque suave, il n'en trahissait pas moins une négation qui, chez une femme, eût été d'une enivrante coquetterie. Séraphitus pressa vivement la jeune fille. Mina prit cette caresse pour une réponse et continua de le contempler. Au moment où Séraphitus releva la tête en rejetant en arrière par un geste presque impatient les rouleaux dorés de sa chevelure, afin de se découvrir le front. Il vit alors du bonheur dans les yeux de sa compagne. « Oui, Mina, » dit-il d'une voix dont l'accent paternel avait quelque chose de charmant chez un être encore adolescent. « Regarde-moi, n'abaisse pas la vue. « Pourquoi ? Tu veux le savoir ? Essaie. » Mina jeta vivement un regard à ses pieds, et cria soudain comme un enfant qui aurait rencontré un tigre. L'horrible sentiment des abîmes l'avait envahi, et ce seul coup d'œil avait suffi pour lui en communiquer la contagion. Le fjord, jaloux de sa pâture, avait une grande voix par laquelle il l'étourdissait en tintant à ses oreilles, comme pour la dévorer plus sûrement en s'interposant entre elle et la vie. Puis, de ses cheveux à ses pieds, le long de son dos, tomba, un frisson glacial d'abord, mais qui bientôt lui versa dans les nerfs une insupportable chaleur, battit dans ses veines et brisa toutes ses extrémités par des atteintes électriques semblables à celles que cause le contact de la torpille. Trop faible pour résister, elle se sentait attirée par une force inconnue en bas de cette table où elle croyait voir quelque monstre qui lui lançait son venin, un monstre dont les yeux magnétiques la charmaient, dont la gueule ouverte semblait broyer sa proie par avance. « Je meurs, mon Séraphitus, n'ayant aimé que toi, » dit-elle en faisant un mouvement machinal pour se précipiter. Séraphitus lui souffla doucement sur le front et sur les yeux. Tout à coup, semblable au voyageur délassé par un bain, Mina n'eut plus que la mémoire de ses vives douleurs, déjà dissipées par cette haleine caressante qui pénétra son corps et l'inonda de balsamiques effluves, aussi rapidement que le souffle avait traversé l'air. « Qui donc es-tu ? » dit-elle avec un sentiment de douce terreur. « Je le sais, tu es ma vie. Comment peux-tu regarder ce gouffre sans mourir ? » reprit-elle après une pause. Séraphitus laissa Mina cramponner au granit, et comme eût fait une ombre, il alla se poser sur le bord de la table, d'où ses yeux plongèrent au fond du fjord, en défiant l'éblouissante profondeur. Son corps ne vacilla point, son front resta blanc et impassible, comme celui d'une statue de marbre. Abîme contre abîme. Séraphitus, si tu m'aimes, reviens, cria la jeune fille. Ton danger me rend mes douleurs. Qui donc es-tu pour avoir cette force surhumaine à ton âge ? Lui demanda-t-elle en se sentant de nouveau dans ses bras. Mais, répondit Séraphitus, tu regardes sans peur des espaces encore plus immenses. Et de son doigt levé, cet être singulier lui montra l'auréole bleue que les nuages dessinaient en laissant un espace clair au-dessus de leur tête et dans lequel les étoiles se voyaient pendant le jour en vertu de lois atmosphériques encore inexpliquées. « Quelle différence !» dit-elle en souriant. « Tu as raison, » répondit-il. « Nous sommes nés pour tendre au ciel, la patrie, comme le visage d'une mère, n'effraie jamais un enfant. » Sa voix vibra dans les entrailles de sa compagne devenue muette. « Allons, viens !» reprit-il. Tous les deux, ils s'élancèrent sur les faibles sentiers tracés le long de la montagne, en y dévorant les distances et volant d'étage en étage, de ligne en ligne, avec la rapidité dont est doué le cheval arabe, cet oiseau du désert. En quelques moments, ils atteignirent un tapis d'herbes, de mousses et de fleurs, sur lequel personne ne s'était encore assis. « Le joli Sawyer, » dit Mina en donnant à cette prairie son véritable nom. « Mais comment se trouve-t-il à cette hauteur ?»« Là cessent, il est vrai, les végétations de la flore norvégienne, » dit Séraphitus. « Mais s'il se rencontre ici quelques herbes et des fleurs, elles sont dues à ce rocher qui les garantit contre le froid du pôle. « Mets cette touffe dans ton sein, Mina, » dit-il en arrachant une fleur. « Prends cette suave création qu'aucun œil humain n'a vue encore et garde cette fleur unique comme un souvenir de cette matinée unique dans ta vie. Tu ne trouveras plus de guide pour te mener à ce seul heure. » Il lui donna soudain une plante hybride que ses yeux d'aigle lui avaient fait apercevoir parmi des silènes acolis et des saxifrages, véritables merveilles écloses sous le souffle des anges. Mina saisit avec un empressement enfantin la touffe d'un vert transparent et brillant comme celui de l'émeraude, formée par de petites feuilles roulées en cornets, d'un brun clair au fond, mais qui de teinte en teinte devenaient vertes à leur pointe partagée en découpures d'une délicatesse infinie. Ces feuilles étaient si pressées qu'elles semblaient se confondre et produisaient une foule de jolies rosaces. Çà et là, sur ce tapis, s'élevaient des étoiles blanches bordées d'un filet d'or, du sein desquelles sortaient des anthères pourprés, sans pistil. Une odeur qui tenait à la fois de celle des roses et des calices de l'oranger, mais fugitive et sauvage, achevait de donner je ne sais quoi de céleste à cette fleur mystérieuse que Séraphitus contemplait avec mélancolie, comme si la senteur lui en eût exprimé de plaintives idées que lui seul il comprenait. Mais à Mina, ce phénomène inouï parut être un caprice par lequel la nature s'était plu à douer quelques pierreries de la fraîcheur, de la mollesse et du parfum des plantes. Pourquoi serait-elle unique? Elle ne se reproduira donc plus? Dit la jeune fille à Séraphitus qui rougit et changea brusquement de conversation. Asseyons-nous. Retourne-toi. Vois. À cette hauteur, peut-être, ne trembleras-tu point? Les abîmes sont assez profonds pour que tu n'en distingues plus la profondeur. Ils ont acquis la perspective unie de la mer, le vague des nuages, la couleur du ciel. La glace du fjord est une assez jolie turquoise. Tu n'aperçois les forêts de sapins que comme de légères lignes de bistre. Pour vous, les abîmes doivent être parés ainsi. Séraphitus jeta ces paroles avec cette onction dont l'accent et le geste connus seulement de ceux qui sont parvenus au sommet des hautes montagnes du globe et contractés si involontairement que le maître le plus orgueilleux se trouve obligé de traiter son guide en frère et ne s'en croit le supérieur qu'en s'abaissant vers les vallées où demeurent les hommes. Il défaisait les patins de Mina au pied de laquelle il s'était agenouillé. L'enfant ne s'en apercevait pas, tant elle s'émerveillait du spectacle imposant que présente la vue de la Norvège, dont les longs rochers pouvaient être embrassés d'un seul coup d'œil, tant elle était émue par la solennelle permanence de ces cimes froides et que les paroles ne sauraient exprimer. « Nous ne sommes pas venus ici par la seule force humaine, » dit-elle en joignant les mains. « Je rêve sans doute. » Vous appelez surnaturel les faits dont les causes vous échappent, répondit-il. Tes réponses, dit-elle, sont toujours empreintes de je ne sais quelle profondeur. Près de toi, je comprends tout sans effort. Ah, je suis libre! Tu n'as plus tes patins, voilà tout. Oh, dit-elle, moi qui aurais voulu délier les tiens en te baisant les pieds. Garde ces paroles pour Wilfrid, répondit doucement Séraphitus. Wilfrid, répéta Mina d'un ton de colère qui s'apaisa dès qu'elle eut regardé son compagnon. Tu ne l'emportes jamais, toi, dit-elle en essayant, mais en vain, de lui prendre la main. Tu es en toute chose d'une perfection désespérante. Tu en conclus alors que je suis insensible. Mina fut effrayée d'un regard si lucidement jeté dans sa pensée. « Tu me prouves que nous nous entendons, » répondit-elle avec la grâce de la femme qui aime. Séraphitus agita mollement la tête en lançant un regard à la fois triste et doux. « Toi qui sais tout, » reprit Mina, « dis-moi, pourquoi la timidité que je ressentais là-bas, près de toi, s'est dissipée en montant ici? Pourquoi j'ose te regarder pour la première fois en face, tandis que là-bas, à peine osais-je te voir à la dérobée? Ici, peut-être, avons-nous dépouillé les petitesses de la terre ? » répondit-il en défaisant sa pélisse. « Jamais tu n'as été si beau, » dit Mina en s'asseyant sur une roche moussue et s'abîmant dans la contemplation de l'être qui l'avait conduite sur une partie du pic qui de loin semblait inaccessible. Jamais, à la vérité, Séraphitus n'avait brillé d'un si vif éclat. Seule expression qui rende l'animation de son visage et l'aspect de sa personne. Cette splendeur, était-elle due à la nitescence que donne au teint l'air pur des montagnes et le reflet des neiges? Était-elle produite par le mouvement intérieur qui surexcite le corps à l'instant où il se repose d'une longue agitation? Provenait-elle du contraste subi entre la clarté d'or projetée par le soleil et l'obscurité des nuées à travers lesquelles ce joli couple avait passé? Peut-être à ces causes faudrait-il encore ajouter les effets d'un des plus beaux phénomènes que puisse offrir la nature humaine. Si quelque habile physiologiste eût examiné cette créature, qui, dans ce moment, à voir la fierté de son front et l'éclair de ses yeux, paraissait être un jeune homme de 17 ans. S'il eût cherché les ressorts de cette florissante vie sous le tissu le plus blanc que jamais le Nord ait fait à l'un de ses enfants, il aurait cru sans doute à l'existence d'un fluide phosphorique en des nerfs qui semblaient reluire sous l'épiderme ou à la constante présence d'une lumière intérieure qui colorait Séraphitus à la manière de ces lueurs contenues dans une coupe d'albâtre. Quelque mollement effilées que fussent ses mains qu'il avait dégantées pour délier les patins de Mina, elles paraissaient avoir une force égale à celle que le Créateur a mise dans les diaphanes attaches du crabe. Les feux jaillissants de son regard d'or luttaient évidemment avec les rayons du soleil, et il semblait ne pas en recevoir, mais lui donner de la lumière. Son corps, mince et grêle comme celui d'une femme, attestait une de ces natures faibles en apparence, mais dont la puissance égale toujours le désir, et qui sont fortes à temps. De taille ordinaire, Séraphitus se grandissait en présentant son front, comme s'il eût voulu s'élancer. Ses cheveux, bouclée par la main d'une fée, et comme soulevée par un souffle, ajoutait à l'illusion que produisait son attitude aérienne. Mais ce maintien dénué d'effort résultait plus d'un phénomène moral que d'une habitude corporelle. L'imagination de Mina était complice de cette constante hallucination sous l'empire de laquelle chacun serait tombé et qui prêtait à Séraphitus l'apparence des figures rêvées dans un heureux sommeil. Nul type connu ne pourrait donner une image de cette figure majestueusement mâle pour Mina, mais qui, aux yeux d'un homme, eût éclipsé par sa grâce féminine les plus belles têtes dues à Raphaël. Ce peintre des cieux a constamment mis une sorte de joie tranquille, une amoureuse suavité dans les lignes de ses beautés angéliques. Mais à moins de contempler Séraphitus lui-même, quelle âme inventerait la tristesse mêlée d'espérance qui voilait à demi les sentiments ineffables empreints dans ses traits? Qui saurait, même dans les fantaisies d'artistes où tout devient possible, voir les ombres que jetait une mystérieuse terreur sur ce front trop intelligent qui semblait interroger les cieux et toujours plaindre la terre? Cette tête planait avec dédain comme un sublime oiseau de proie dont les cris troublent l'air, et se résignait comme la tourterelle dont la voix verse la tendresse au fond des bois silencieux. Le teint de Séraphitus était d'une blancheur surprenante, que faisaient encore ressortir des lèvres rouges, des sourcils bruns et des cils soyeux, seuls traits qui tranchassent sur la pâleur d'un visage dont la parfaite régularité ne nuisait en rien à l'éclat des sentiments. Il s'y reflétait sans secousse ni violence, mais avec cette majestueuse et naturelle gravité que nous aimons à prêter aux êtres supérieurs. Tout dans cette figure marmorine exprimait la force et le repos. Mina se leva pour prendre la main de Séraphitus, en espérant qu'elle pourrait ainsi l'attirer à elle et déposer sur ce front séducteur un baiser arraché, plus à l'admiration qu'à l'amour. Mais un regard du jeune homme, regard qui la pénétra comme un rayon de soleil traverse le prisme, glaça la pauvre fille. Elle sentit, sans le comprendre, un abîme entre eux, détourna la tête et pleura. Tout à coup, une main puissante la saisit par la taille, une voix pleine de suavité lui dit « Viens ». Elle obéit, posa sa tête soudain rafraîchie sur le cœur du jeune homme qui, réglant son pas sur le sien, douce et attentive conformité, l'amena vers une place d'où ils purent voir les radieuses décorations de la nature polaire. Avant de regarder et de t'écouter, « Dis-moi, Séraphitus, pourquoi tu me repousses? T'ai-je déplu? Comment? Dis, je voudrais ne rien avoir à moi, je voudrais que mes richesses terrestres fussent à toi, comme à toi sont déjà les richesses de mon cœur, que la lumière ne me vînt que par tes yeux, comme ma pensée dérive de ta pensée. Je ne craindrai plus de t'offenser en te renvoyant ainsi le reflet de ton âme, les mots de ton cœur, le jour de ton jour. » Comme nous renvoyons à Dieu les contemplations dont il nourrit nos esprits. Je voudrais être tout toi. Eh bien, Mina, un désir constant est une promesse que nous fait l'avenir. Espère. Mais si tu veux être pure, mêle toujours l'idée du Tout-Puissant aux affections d'ici-bas. Tu aimeras alors toutes les créatures. Et ton cœur ira bien haut. « Je ferai tout ce que tu voudras, » répondit-elle en levant les yeux sur lui par un mouvement timide. « Je ne saurais être ton compagnon, » dit Séraphitus avec tristesse. Il réprima quelques pensées, étendit les bras vers Christiania, qui se voyait comme un point à l'horizon, et dit « Vois !» Nous sommes bien petits, répondit-elle. Oui, mais nous devenons grands par le sentiment et par l'intelligence, reprit Séraphitus. À nous seuls, Mina, commence la connaissance des choses. Le peu que nous apprenons des lois du monde visible nous fait découvrir l'immensité des mondes supérieurs. Je ne sais s'il est temps de te parler ainsi, mais je voudrais tant te communiquer la flamme de mes espérances. Peut-être serions-nous un jour ensemble, dans le monde où l'amour ne périt pas. Pourquoi pas maintenant et toujours ? Dit-elle en murmurant. Rien n'est stable ici, reprit-il dédaigneusement. Les passagères félicitées des amours terrestres sont des lueurs qui trahissent à certaines âmes l'aurore de félicité plus durable, de même que la découverte d'une loi de la nature en fait supposer à quelques êtres privilégiés le système entier. Notre fragile bonheur d'ici-bas n'est-il donc point l'attestation d'un autre bonheur complet comme la terre, fragment du monde, atteste le monde? Nous ne pouvons mesurer l'orbite immense de la pensée divine, de laquelle nous ne sommes qu'une parcelle, aussi petite que Dieu est grand, mais nous pouvons en pressentir l'étendue, nous agenouiller, adorer, attendre. Les hommes se trompent toujours dans leur science, en ne voyant pas que tout sur leur globe est relatif et s'y coordonne à une révolution générale, à une production constante qui nécessairement entraîne un progrès et une fin. L'homme lui-même n'est pas une création finie, sans quoi Dieu ne serait pas. Comment as-tu trouvé le temps d'apprendre tant de choses ? Dit la jeune fille. Je me souviens, répondit-il. Tu me sembles plus beau que tout ce que je vois. Nous sommes un des plus grands ouvrages de Dieu. Ne nous a-t-il pas donné la faculté de réfléchir la nature, de la concentrer en nous par la pensée et de nous en faire un marchepied pour nous élancer vers lui? Nous nous aimons en raison du plus ou du moins de ciel que contiennent nos âmes. Mais ne sois pas injuste, Mina. Vois le spectacle qui s'étale à tes pieds. N'est-il pas grand? À tes pieds. L'océan se déroule comme un tapis. Les montagnes sont comme les murs d'un cirque. L'éther est au-dessus comme le voile arrondi de ce théâtre. Et d'ici, l'on respire les pensées de Dieu comme un parfum. Vois les tempêtes qui brisent des vaisseaux chargés d'hommes ne nous semblent ici que de faibles bouillonnements. Et si tu lèves la tête au-dessus de nous, tout est bleu. Voici comme un diadème d'étoiles. Ici disparaissent les nuances des expressions terrestres. Appuyé sur cette nature subtilisée par l'espace, ne sens-tu point en toi plus de profondeur que d'esprit? N'as-tu pas plus de grandeur que d'enthousiasme? Plus d'énergie que de volonté? N'éprouves-tu pas des sensations dont l'interprète n'est plus en nous? Ne te sens-tu pas des ailes? Prions. Séraphitus plia le genou, se posa les mains en croix sur le sein, et Mina tomba sur ses genoux en pleurant. Ils restèrent ainsi pendant quelques instants. Pendant quelques instants, l'auréole bleue qui s'agitait dans les cieux au-dessus de leur tête s'agrandit, et de lumineux rayons les enveloppèrent à leur insu. « Pourquoi ne pleures-tu pas quand je pleure ?» lui dit Mina d'une voix entrecoupée. « Ceux qui sont tout esprit ne pleurent pas, » répondit Séraphitus en se levant. « Comment pleurerais-je ? Je ne vois plus les misères humaines. Ici, le bien éclate dans toute sa majesté. En bas, j'entends les supplications et les angoisses de la harpe des douleurs qui vibrent sous les mains de l'esprit captif. D'ici, j'écoute le concert des harpes harmonieuses. En bas, vous avez l'espérance, ce beau commencement de la foi. Mais ici règne la foi, qui est l'espérance réalisée. Tu ne m'aimeras jamais, je suis trop imparfaite, tu me dédaignes, dit la jeune fille. Mina, la violette cachée au pied du chêne, se dit « Le soleil ne m'aime pas, il ne vient pas !» Le soleil se dit « Si je l'éclairais, elle périrait, cette pauvre fleur !» Ami de la fleur, il glisse ses rayons à travers les feuilles des chênes et les affaiblit pour colorer le calice de sa bien-aimée. « Je ne me trouve pas assez de voile et crains que tu ne me voies encore trop. » Tu frémirais si tu me connaissais mieux. Écoute, je suis sans goût pour les fruits de la terre. Vos joies, je les ai trop bien comprises. Et comme ces empereurs débauchés de la Rome profane, je suis arrivé au dégoût de toutes choses, car j'ai reçu le don de vision. Abandonne-moi, dit douloureusement Séraphitus. Puis il alla se poser sur un quartier de roche, en laissant tomber sa tête sur son sein. « Pourquoi me désespères-tu donc ainsi ? » lui dit Mina.
« Va-t'en ! »
s'écria Séraphitus. « Je n'ai rien de ce que tu veux de moi. Ton amour est trop grossier pour moi. Pourquoi n'aimes-tu pas Wilfrid ? Wilfrid est un homme éprouvé par les passions, qui saura te serrer dans ses bras nerveux, qui te fera sentir une main large et forte. Il a de beaux cheveux noirs, des yeux pleins de pensées humaines, un cœur qui verse des torrents de lave dans les mots que sa bouche prononce. Il te brisera de caresses. Ce sera ton bien-aimé, ton époux, à toi, Wilfrid. » Mina pleurait à chaudes larmes. Oses-tu dire que tu ne l'aimes pas ? Dit-il d'une voix qui entrait dans le cœur comme un poignard. « Grâce, grâce, mon Séraphitus ! Aime-le, pauvre enfant de la terre où ta destinée te cloue invinciblement !» dit le terrible Séraphitus en s'emparant de Mina par un geste qui la força de venir au bord du solaire, d'où la scène était si étendue qu'une jeune fille pleine d'enthousiasme pouvait facilement se croire au-dessus du monde. Je souhaitais un compagnon pour aller dans le royaume de lumière. J'ai voulu te montrer ce morceau de boue, et je t'y vois encore attaché. Adieu. Reste-y. Jouis par les sens. Obéis à ta nature. Pâlis avec les hommes pâles. Rougis avec les femmes. Joue avec les enfants. Prie avec les coupables. Lève les yeux vers le ciel dans tes douleurs. Tremble, espère, palpite. Tu auras un compagnon, tu pourras encore rire et pleurer, donner et recevoir. Moi, je suis comme un proscrit, loin du ciel, et comme un monstre, loin de la terre. Mon cœur ne palpite plus, je ne vis que par moi et pour moi. Je sens par l'esprit, je respire par le front, je vois par la pensée, je meurs d'impatience et de désir. Personne ici-bas n'a le pouvoir d'exaucer mes souhaits, de calmer mon impatience, et j'ai désappris à pleurer. Je suis seul. Je me résigne, et j'attends. Séraphitus regarda le tertre plein de fleurs sur lequel il avait placé Mina, puis il se tourna du côté des monts sourcilleux dont les pitons étaient couverts de nuées épaisses, dans lesquelles il jeta le reste de ses pensées. N'entendez-vous pas un délicieux concert, Mina ? Reprit-il de sa voix de tourterelle, car l'aigle avait assez crié. Ne dirait-on pas la musique des harpes éoliennes que vos poètes mettent au sein des forêts et des montagnes ? Voyez-vous les indistinctes figures qui passent dans ces nuages ? Apercevez-vous les pieds ailés de ceux qui préparent les décorations du ciel? Ces accents rafraîchissent l'âme. Le ciel va bientôt laisser tomber les fleurs du printemps. Une lueur s'est élancée du pôle. Fuyons, il est temps! En un moment, leurs patins furent rattachés et tous deux descendirent le Falberg par les pentes rapides qui l'unissaient aux allées de la Siègue. Une intelligence miraculeuse présidait à leur course, ou, pour mieux dire, à leur vol. Quand une crevasse couverte de neige se rencontrait, Séraphitus saisissait Mina et s'élançait par un mouvement rapide sans peser plus qu'un oiseau sur la fragile couche qui couvrait un abîme. Souvent, en poussant sa compagne, il faisait une légère déviation pour éviter un précipice, un arbre, un quartier de roche qu'il semblait voir sous la neige. Comme certains marins habitués à l'océan en devinent les écueils à la couleur, au remous, au gisement des eaux. Quand ils atteignirent les chemins du Sidgallen et qu'il leur fut permis de voyager presque sans crainte en ligne droite pour regagner la glace du Stormfjord, Séraphitus arrêta Mina. « Tu ne me dis plus rien ?» demanda-t-il. « Je croyais, répondit respectueusement la jeune fille, que vous vouliez penser tout seul. « Hâtons-nous, ma Minette, la nuit va venir, » reprit-il. Mina tressaillit en entendant la voix, pour ainsi dire nouvelle, de son guide. Voix pure comme celle d'une jeune fille et qui dissipa les lueurs fantastiques du songe, à travers lequel jusqu'alors elle avait marché. Séraphitus commençait à laisser sa force mâle et à dépouiller ses regards de leur trop vive intelligence. Bientôt ces deux jolies créatures cinglèrent sur le fjord, atteignirent la prairie de neige qui se trouvait entre la rive du golfe et la première rangée des maisons de Jarvis, puis, pressées par la chute du jour, elles s'élancèrent en montant vers le presbytère, comme si elles eussent gravi les rampes d'un immense escalier. « Mon père doit être inquiet, » dit Mina. « Non, » répondit Séraphitus. En ce moment, le couple était devant le porche de l'humble demeure où M. Baker, le pasteur de Jarvis, lisait en attendant sa fille pour le repas du soir.
« Cher Monsieur Baker, » dit Séraphitus, « je vous ramène Mina saine et sauve. »«
Merci, mademoiselle, » répondit le vieillard en posant ses lunettes sur le livre. « Vous devez être fatiguée. » « Nullement, » dit Mina, qui reçut en ce moment sur le front le souffle de sa compagne. « Ma petite, voulez-vous après-demain soir venir chez moi prendre du thé ?»«
Volontiers, chère. »«
Monsieur Baker, vous me l'amènerez. » »«
Oui, mademoiselle. »
Séraphitus inclina la tête par un geste coquet, salua le vieillard, partit, et en quelques instants arriva dans la cour du château suédois. Un serviteur octogénaire apparut sous l'immense auvent en tenant une lanterne. Séraphitus quitta ses patins avec la dextérité gracieuse d'une femme, s'élança dans le salon du château, tomba sur un grand divan couvert de pelleteries et s'y coucha. « Qu'allez-vous prendre ? » lui dit le vieillard en allumant les bougies démesurément longues dont on se sert en Norvège.
« Rien. » David, je suis trop lasse.
Séraphitus défit sa pelisse fourrée de martre, s'y roula et dormit. Le vieux serviteur resta pendant quelques moments debout à contempler avec amour l'être singulier qui reposait sous ses yeux et dont le genre eût été difficilement défini par qui que ce soit, même par les savants. À le voir ainsi posé, enveloppé de son vêtement habituel, qui ressemblait autant à un peignoir de femme qu'à un manteau d'homme, il était impossible de ne pas attribuer à une jeune fille les pieds menus qu'il laissait pendre, comme pour montrer la délicatesse avec laquelle la nature les avait attachés. Mais son front, mais le profil de sa tête, eussent semblé l'expression de la force humaine, arrivé à son plus haut degré. Elle souffre et ne veut pas me le dire, pensa le vieillard. Elle se meurt comme une fleur frappée par un rayon de soleil trop vif. Et il pleura. le vieil homme.